France Inter.
Corinne Audouin, bonjour Corinne.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, ouf de soulagement pour le gouvernement, la France garde sa note souveraine.
Les agences de notation Moody's et Fitch n'ont pas sanctionné le dérapage des comptes publics. La France garde ses bonnes notes avec une perspective stable. On vous explique pourquoi dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, la flamme olympique embarque depuis Athènes, direction Marseille. Et c'est Florent Manaudou qui la portera le premier sur le sol français. Le lycée Averroès de Lille contre-attaque. Les parents d'élèves portent plainte contre l'État pour discrimination. Et puis le match du jour pour l'équipe de France féminine de rugby, France-Angleterre en tournoi des Six Nations avec un espoir de grand chelem.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50, on l'a décrit comme la dernière prise de guerre du RN. Avec nous Mathieu Vallet, ancien porte-parole du syndicat indépendant des commissaires, prévu en position éligible sur la liste du parti aux européennes. Et à 8h20, la présidente directrice du musée du Louvre, au cœur de l'actualité des Jeux Olympiques aux questions sur la Joconde. Nous serons avec Laurence Descartes.
France Inter.
C'était l'inquiétude du gouvernement français, voire la note souveraine de la France, dégradée à quelques semaines des européennes du 9 juin. Mais hier soir, les agences américaines Moody's et Fitch n'ont pas sorti le stylo rouge. Elles gardent inchangées les bonnes notes du pays. Ce sont ces notes qui déterminent le taux d'emprunt de la France. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
AA2 et AA- donc, malgré le dérapage du déficit public en 2023 et une dette qui dépasse les 3 000 milliards d'euros. Comment ça s'explique?
Alors c'est vrai que la France n'est pas la meilleure élève de l'Union européenne en matière budgétaire, mais sa dette continue d'intéresser les investisseurs internationaux parce que le système français bancaire est jugé solide, que les réformes et les plans d'économie annoncés par Bercy ont visiblement convaincu, que l'ampleur des patrimoines privés susceptibles d'être taxés en cas de crise rassure, que s'il le fallait, la Banque Centrale Européenne interviendrait pour éviter une nouvelle crise de dette souveraine dans la zone euro. Et qu'enfin, les marchés, malgré les mauvaises nouvelles successives ces dernières semaines, n'ont pas bronché. Les agences ont donc choisi de suivre l'humeur des marchés plutôt que de les précéder.
Et c'est donc une bonne nouvelle pour la France, Agnès.
Oui, bien sûr, cela écarte le risque de voir augmenter le taux d'intérêt que les investisseurs internationaux exigent pour prêter à la France, au moment où le gouvernement s'est engagé à réduire les dépenses publiques et les intérêts de la dette contribuent au déficit qui ne cesse de se creuser. D'ailleurs, Bruno Le Maire l'a dit dès hier soir, cette décision des agences de notation doit nous inciter à redoubler de détermination pour rétablir les finances publiques et tenir l'objectif de repasser sous la barre des 3% de déficit en 2027, grâce notamment au plein emploi et aux réformes de structure.
Merci Agnès Soubiran du service économie de France Inter. Et une troisième note est attendue fin mai, celle de l'agence Standard & Poor's. Il y aura une troisième convention citoyenne après celle sur le climat et celle sur la fin de vie. Emmanuel Macron l'a annoncé hier soir, mais on ne sait pas encore sur quel sujet le président de la République rencontrait les membres de la convention sur la fin de vie. Le blocage est terminé à Sciences Po Paris. Les étudiants pro-palestiniens ont levé le camp hier soir. Après des annonces de la direction, elle s'engage à organiser un débat interne à l'école, notamment sur les partenariats avec des universités israéliennes. Et elle suspend les procédures disciplinaires lancées contre des étudiants participant à ce mouvement. Le conflit au Proche-Orient, pas d'avancée sur un espoir de trêve. Ce matin, le Hamas annonce qu'il étudie une contre-proposition israélienne. Une délégation égyptienne est arrivée hier à Jérusalem pour tenter de relancer les négociations sur une trêve à Gaza.
7h04 sur France Inter, la flamme olympique s'apprête à prendre la mer.
Allumée il y a 11 jours à Olympie, remise hier à Athènes aux Français, la flamme embarquera dans 3 heures environ pour Marseille à bord du Belém. Le président de Paris 2024, Tony Estanguet, a dévoilé le nom du premier porteur sur le sol français. Ce sera le nageur Florent Manaudou. Jérôme Val.
C'est donc lui qui montera sur le Belém à son arrivée devant le vieux port de Marseille après 12 jours en mer. C'est lui qui descendra du 3 mâts la torche à la main. Florent Manaudou, qui a longtemps fait les belles heures du cercle des nageurs de Marseille, a le profil idéal pour être le premier porteur en France, estime Tony Estanguet, le patron des Jeux.
Florent, il nous accompagne depuis la phase de candidature. Il a été régulièrement présent sur tous nos événements. Il est allé dans les écoles, il est monté à Paris plein de fois pour contribuer à l'énergie et à la réussite de cet événement. Il a décidé d'être capitaine du du relais de la flamme. Et donc pour moi, ça faisait beaucoup de sens.
Une tâche prestigieuse, comme l'avait fait sa sœur Laure à Olympie la semaine dernière. La médaillée d'or de patinage Gabriela Papadakis a porté la flamme lors de la cérémonie.
Je trouve ça magnifique, d'autant plus que voilà, c'est Laure qui était la première française à Olympie. Donc je trouve que c'est vraiment un beau symbole. Ouais.
D'autres figures de Marseille auraient pu incarner ce premier porteur, rappelle la première adjointe de la ville, Michèle Rubirola.
Il est vrai qu'on attend des Zizou, comme on l'aime aussi beaucoup, Zinedine Zidane. Alors il y en a certains qui seront déçus, probablement, mais bon, il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a la natation, et puis la natation est accessible à tout le monde.
Candidat aussi pour être porte-drapeau de la délégation française, Florent Manoudou va connaître en tout cas son premier temps fort dans ces JO.
C'était Jérôme Val depuis Athènes. Le lycée Averroès de Lille contre-attaque, privé de subventions publiques depuis décembre sur décision de la préfecture du Nord. L'association de parents d'élèves de ce lycée privé musulman porte plainte pour discrimination. Le préfet estimait que ce lycée dispensait des enseignements contraires aux valeurs de la République, ce que contestent les parents. Sophie Morland.
L'association s'appuie sur les rapports qui ont souligné l'excellence de ses résultats, un attachement aux valeurs républicaines et une réelle mixité. Mixité entre filles et garçons, entre personnes portant le voile ou non, et une mixité sociale avec un taux d'élèves boursiers de 60%. Mais de l'autre côté, pointe l'association, il y a un acharnement des autorités administratives. 13 inspections de professeurs en 5 ans, 9 contrôles en 3 ans, ce qui fait d'Averroès le lycée le plus surveillé de l'académie. Et puis il y a les arguments avancés par le préfet pour mettre fin au contrat, comme les ouvrages de son CDI, pas assez diversifiés. L'association répond avoir fourni au préfet l'intégralité de son fonds documentaire, près de 7000 ressources. Pour toutes ces raisons, l'avocat de l'association dénonce une manipulation de la part du préfet de l'époque, avec des rapports dont certains éléments ont été dénaturés ou passés sous silence. Selon lui, c'est bien la confession des membres de l'association qui a poussé le préfet à résilier ce contrat.
Sophie Morland de France Bleu Nord. La portion de l'A13 fermée depuis le 18 avril dernier ne rouvrira pas le 1er mai, comme cela avait été précédemment annoncé. L'autoroute A13 fermée dans les deux sens entre Paris et Vaucresson en raison d'une fissure importante sur la chaussée.
7h07, direction le pôle sud. Corinne, on prend des nouvelles des manchots empereurs.
Une espèce emblématique, on s'en souvient, héroïne du documentaire de Luc Jacquet, La Marche de l'Empereur. 18 ans après ce film oscarisé, comment vont ces manchots empereurs? Eh bien, pas bien du tout, d'après une étude de la British Antarctic Survey. Sandy Dauphin.
Vous avez peut-être vu ces images de jeunes manchots empereurs qui se jettent à l'eau depuis la banquise pour la première fois. Ils apprennent à nager, plonger et se nourrir. Eh bien, ce rite de passage est bouleversé par le réchauffement climatique. Les poussins naissent en juillet et août pendant le rude hiver austral. Ils sont élevés sur la banquise côtière. Lorsque l'été arrive en décembre-janvier, la banquise fond, les poussins prennent le large. Sauf que désormais, la glace fond et se morcelle plus tôt dans la saison, trop tôt pour les poussins. Ils plongent alors qu'ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas toujours développé leurs plumes imperméables. En 2023, baisse record de la banquise, c'est la deuxième pire année de mortalité des poussins depuis le début des observations en 2018. 14 des 66 colonies ont été affectées par la fonte précoce et les scientifiques de l'Institut polaire britannique, le British Antarctic Survey, alertent. Au rythme actuel des émissions de CO2, la population de manchots empereurs devrait chuter de 99% d'ici la fin du siècle.
Sandy Dauphin. En rugby, c'est le match à ne pas manquer aujourd'hui. Les Françaises reçoivent l'Angleterre. En dernier jour du tournoi des Six Nations, les deux équipes sont pour le moment invaincues. En jeu donc le Grand Chelem, un titre qui revient depuis 6 ans aux Anglaises. Mais pas question de partir battu d'avance, prévient la troisième ligne, Gaëlle Hermé.
Pas du tout une revanche dans le sens où c'est une nouvelle saison, un nouveau groupe. Et c'est plus... Ouais, il y a ces petites boules au ventre, mais pas de stress négatif, plutôt d'impatience de jouer en France devant un stade dans lequel on va battre le record d'affluence français. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment de l'excitation de pouvoir jouer ce match. On s'était fixé comme objectif de pouvoir jouer une finale, c'est le cas, donc maintenant il n'y a plus qu'à.
France-Angleterre à Bordeaux à 17h45, devant en effet, en tout cas on en attend, 27 000 spectateurs.
C'était le journal de Corinne Audouin à suivre, le Zoom sur la réforme du droit du sol à Mayotte.